Sali quoi ? Une émission littéraire de Radio Campus Paris, un lundi sur quatre, de 20h à 21h sur le 93.9 FM.
Chers auditeurs, bienvenue dans le deuxième épisode de Sali quoi, le nouveau rendez-vous mensuel de Radio Campus Paris, où on parle d'écriture, d'édition et de littérature au sens large, à travers un angle queer et intersectionnel. Ce soir, on vous propose de découvrir un livre paru en mai 2025 aux éditions Blast et qui nous a beaucoup touchés, tant par sa langue que par les thématiques qui y sont abordées. Il s'agit du très poétique « Corps étranger sous la peau ». Et pour en parler, nous recevons Nour Bekar, à qui on doit ce très beau texte, et qui a accepté de venir échanger avec nous. Bonsoir Nour.
Bonsoir, merci de l'invitation.
Merci d'être avec nous. Sali quoi est un travail collectif, et comme d'habitude, je suis entourée de mes coéquipières. Salut Garance.
Salut.
Et salut Anna.
Salut.
Radio oblige, vous ne pouvez pas voir ce qu'il se passe dans le studio, mais Garance est sur le plateau et Anna à la réalisation de cette émission. Le quatrième membre de cette équipe est hélas outre-Atlantique, mais nous pourrons entendre sa voix vers la moitié de l'émission avec sa chronique sur Stone Butch Blues, c'est évidemment Margot. Et enfin, pour cette deuxième émission, nous avons une invitée exceptionnelle, notre amie Valentine, qui nous rejoindra en plateau pour inaugurer le tout premier book club de la saison, où nous allons parler du roman « Ça raconte Sarah », écrit par Pauline Delabroix-Allard. Salut Valentine.
Salut.
Salut. Vous avez le programme, alors restez sur les ondes pour l'heure à venir, car vous écoutez Sali quoi.
Sali quoi ? Sur Radio Campus Paris.
On va commencer tout de suite avec toi, Nour. Comme je l'ai dit, tu as publié ton premier roman en mai dernier aux éditions Blast. Avant ça, tu as publié des poèmes et des textes dans des fanzines et des revues, et notamment dans le cadre d'un collectif dont on pourra parler. Et tu es diplômée du master de création littéraire de l'Université Paris 8. Dans « Corps étranger sous la peau », tu évoques la question de l'exil, du rapport au langage et à la migration, et notamment du fait de te trouver entre deux langues, entre deux pays, et de te sentir exclue à chaque endroit. C'est un roman qui porte aussi sur l'identité queer, et notamment le vécu d'une enfant lesbienne et de sa compréhension de sa sexualité. C'est enfin un livre qui donne une grande part au silence, au non-dit et à la solitude. J'espère avoir bien cerné. On a été très touchés par ton livre et on est super contente de t'avoir avec nous. Alors merci beaucoup Nour. Et avant de rentrer dans le corps du texte, on aimerait parler un petit peu de ton parcours et de ton rapport à l'écriture. Voilà. Je sais pas si Garance, tu veux poser la première question.
Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours Par exemple, à quel moment tu t'es dit que tu voulais écrire ?
Ok, ben déjà merci pour cet accueil de mon livre et de mon œuvre en règle générale. On parlera de tout ce qui est collectif un peu plus tard. À quel moment je me suis dit que j'allais écrire ? C'est très drôle parce que je me suis jamais dit que j'allais écrire. En fait, c'est quelque chose qui me suis un peu tombée dessus à partir du moment où j'allais arriver en master. Et je vivais avec une personne que j'aimais beaucoup qui m'a toujours dit « Mais Nour, tu fais qu'écrire ». Tu fais qu'écrire parce que j'ai grandi dans ce truc où l'oralité, c'était un peu une prison pour moi. Mmh. Et
D'où l'omniprésence du silence.
C'est ça. Ouais. Au-delà de l'omniprésence du silence, c'est aussi le silence qu'on impose aux enfants. Enfin, il y a aussi tout ça. Mmh. Mais ça m'est venu au moment où il fallait choisir un master aussi, quoi. Et j'étais partagée entre faire de la recherche... purement et durement sur Violette Le Duc, d'où la référence dans le livre aussi. Ouais. Et puis la personne avec qui je vivais à ce moment-là m'a dit « Mais Nour, t'as toujours écrit, tente le master de création littéraire, ça te coûte quoi ?» Et à ce moment-là, je me suis dit « Ok, l'écriture est impossible, et c'est pas seulement que mes carnets, et c'est pas seulement aussi mon seul moyen de communiquer avec mes amis ou mes proches. » Et c'est impossible. Donc c'est à ce moment-là, je dirais, quand j'ai postulé le master, j'avais 20 ans.
C'est impossible. Pourquoi ?
Non, c'est impossible.
Ah, c'est impossible. Okay,
impossible par moi. Ouais. Ok, c'est tôt en vrai pour entrer dans ce master qui est souvent un master dans lequel il y a des personnes qui sont en reconversion. Enfin, je sais pas si t'étais la plus jeune ou pas.
J'avais 20 ans, 21 ans, et quand je suis arrivée, c'est assez tôt, mais c'est aussi parce que j'ai commencé mes études à 17, tu vois, donc oui.
Et je sais pas un peu, enfin, ce que ça a pu t'apporter. Je sais pas si le livre, si Corps étranger sous la peau, tu l'as écrit pendant le master ou après. Est-ce que tout est venu un peu à la fois?
Je sais pas si vous connaissez le processus de. Du coup, en gros, pour entrer, il faut donner un projet professionnel et une sorte de projet de création. Et du coup, moi, j'avais envoyé le début du livre, pas de la toute première page, mais le début sur l'enfance. Et je crois que c'était un peu compliqué parce que au départ, je me disais waouh, je suis jeune, qu'est-ce que je vais écrire à part un truc sur l'enfance et l'adolescence, et c'est pas forcément des sujets. En fait, c'est aussi ça qui est beau dans l'écriture. Tu penses écrire quelque chose et tu vas écrire tout l'inverse. Moi, de base, je voulais écrire un récit queer sur qu'est-ce que ça fait d'arriver à Paris quand t'es une jeune Algérienne et tu dois te réhabituer à cette culture que tu connais que de ton enfance. Et finalement, voilà, t'écris et tu contrôles pas du tout ce que tu vas faire. Et je pense que, du coup, tu fais bien de parler de mon âge. Ouais, c'est jeune. Et du coup, ce qui s'est passé dans mes moments d'écriture, ben, c'était l'enfance, l'adolescence. Alors que moi, j'étais en mode, ouais, jeune adulte, allez, on va parler du milieu queer, on va parler de tout ce qui est consommation, de toutes les projections qu'on se prend, toute la fétichisation, et finalement, hop.
Ouais, finalement, dans le livre...
Il est plus question de l'Algérie.
Oui, ouais. C'est ça, les passages à Paris sont beaucoup moins importants que, en termes de volume, quoi, que le reste. Mais c'est bien, ça te fait la matière peut-être pour la suite.
Complètement.
Et justement, tu parlais de collectif, et j'ai l'impression qu'à Paris 8, c'est aussi ça, c'est aussi une écriture collective où vous lisez les unes les autres, et il y a quelque chose de...
Ouais, il y a quelque chose de collectif, et ce qui est d'ailleurs très bien quand t'es une personne qui... En fait, ça dépend à quel stade d'écriture t'es, mais quand t'es une personne qui a un peu du mal à montrer ses textes et qui a vraiment ce besoin de reconnaissance et de communauté, le master est fait pour ça. C'est que tu vas trouver ton endroit, notamment dans les cours de projet de suivi et aussi de retour avec les tutoristes. Donc c'est ça qui est bien, et puis même aussi ça sert à créer du lien. Même moi, ça va faire deux ans que j'y suis plus, et j'ai encore des contacts avec des étudiantes que j'avais adorées, et on a créé des liens aussi. C'est sur le long terme aussi dans ta carrière.
Et même les promos d'au-dessus, enfin il y a un truc comme ça de...
Ouais, les promos d'au-dessus, tu les croises aussi. Enfin, il y a un truc un peu de... On sait qu'on a fait ce master, et c'est pratique, vraiment ça aide. Surtout quand tu connais rien au milieu littéraire, enfin, y a aussi ce truc.
Qui doit être quand même intimidant, j'imagine.
Enfin, ouais, au premier abord.
Et je l'ai dit en introduction, tu fais partie du collectif Désastre. Est-ce que c'est un collectif au sein duquel tu écris toujours ? Comment ça se passe, cet aspect pluriel, quoi ?
Ouais, alors le collectif Désastre, quand il s'est créé, j'en faisais pas partie. En fait, c'est des amis à moi qui m'avaient demandé un poème pour « Et puis nous danserons » dans la lumière, où en fait l'initiative de ce collectif, c'était de mettre en avant tous les travaux artistiques de leur copaigne, c'est-à-dire tout ce qui peut être imprimable dans un format de micro-édition. Et puis après, j'ai intégré un an plus tard avec cette volonté toujours de mettre en avant cette fois-ci, au travers d'un zine sur les odeurs sur lesquelles on a travaillé, le travail d'inconnu. Donc en fait, c'est vraiment, on avait cette volonté de visibiliser en dehors des réseaux. Parce que tout ce qui tournait sur les réseaux, on trouvait ça très beau, mais c'était pas suffisant. Il fallait une sorte de matérialité pour archiver. Et pour l'instant, notre dernier événement, c'était, peut-être que vous en avez entendu parler, c'était à la Flèche d'Or en février pour... on a invité pas mal d'auteurismes pour performer et pour avoir des fonds pour la Palestine, le Congo et le Liban. Donc il y a aussi cette dimension-là politique qui nous est très importante. Après, comme on est tous assez bénévoles, on cherche à parfois avoir des dimensions, enfin ça reste compliqué de faire des événements plus ponctuels.
Et tu parlais de politique, nous il y a quelque chose qui nous a un peu marqué, qui est dès la première page de ton livre, sur le rapport à la lecture. On en parlait un petit peu avant de débuter l'émission. T'écris, je cite, « Lorsqu'un livre m'insupporte, je me force à le lire, à réfléchir à ce que je viens de lire, à intégrer l'information pour en parler dans des cercles constitués de privilégiés. » Et les privilégiés en question, c'est des personnes principalement blanches. Et on imagine un cercle intellectuel, un peu de bourgeoise intellectuelle très parisien. Du coup, on se demandait un peu, toi, pour qui tu as écrit ce livre ? Et est-ce qu'il y a une idée politique derrière de « je veux écrire en dehors de ce cercle » ?
Tu mets complètement les pieds dedans. En fait, en me confrontant au milieu littéraire, je me suis rendu compte d'une chose qui était flagrante, c'était le regard blanc. C'est-à-dire que, en tant que lectrice, quand je lisais Nina Bouraoui ou alors Fatima Das, tu vois, je m'étais jamais posé la question de qui reçoit, qui lit. Puis quand c'était à mon tour d'écrire, je suis en mode ok, qui va me recevoir, l'adresse elle est où, et qui lit. Et j'ai écrit cette première page un peu comme une sorte de faire-part manifeste qui peut parler à tous. Parce que oui, en fait, la lecture, ça reste quelque chose... malheureusement, on sensibilise très peu les adolescentes, et moi j'aimerais bien faire ce travail-là. Et je trouve que maintenant, il y a beaucoup plus de personnes qui lisent, et c'est très bien. Et généralement, si on va parler de rentrée littéraire, comme on en a parlé avant l'émission, c'est des personnes qui ont... accès aux études supérieures, blanches ou pas. Quand je dis privilégiées, c'est les personnes qui ont un rapport proche ou loin à la blanchité. Donc ça peut aussi être des personnes racisées privilégiées.
Ouais.
Mais du coup, oui, j'ai ce rapport à la lecture. Je sais pas, vous étiez quel type d'adolescent? Mais moi, j'étais une adolescente assez curieuse, et du coup, je lisais. Et je suis toujours une adulte assez curieuse. Et donc pour moi, je pense qu'il y a ce truc de réussir à trouver des endroits d'ambiguïté qui nous permettent de lire des livres où on se reconnaît. Sauf que ce qui est, comme je vous disais, dans la littérature et dans les maisons d'édition de Blanche, tout court, assez rare maintenant, parce qu'on privilégie des récits qui transforment le réel sans trop le transformer. Enfin, ce truc accru...
aseptisé,
ouais. Ouais, complètement. Et c'est aussi pour parler des sous-genres où on met les personnes racisées.
On les enferme dans des cases
de
labels.
Qui,
ouais.
C'est ça, qui va être tokenisé et le témoignage. Donc moi, quand j'ai écrit cette page, c'était... Ok, en fait, ce que j'ai lu, c'est des trucs de témoignage. Nina Bouraoui, elle se permet grave un élan poétique. Mais je pense que parce que c'était aussi le début des années 2000, ou alors celui qui m'avait frappé aussi, que j'avais trop aimé, c'est Tous les hommes désirent naturellement savoir. Elle se permet ce truc de langue, mais c'est aussi parce qu'elle est rentrée directement, je crois, son premier a été édité chez Gallimard. Enfin, il y a tout ça. Mais du coup, il faut toujours avoir en tête comment les personnes nous lisent. Et moi, j'en avais marre que les personnes racisées soient mises dans ce sous-genre de « il faut rentrer par l'autofiction et il faut rentrer par le témoignage et d'études sociologiques ». Et du coup, j'ai voulu renverser ça en disant « moi, je me force à lire vos livres ». Et je pense que je ne suis pas la seule. Enfin, je vois, si ça vous a parlé, c'est que je ne suis pas la seule. Je vois, c'est tout le travail aussi sur ce bouquin. C'est, voilà. Vous ressentez les mêmes choses que moi, malgré le fait qu'on est très polaire.
Et donc écrire pour toi, ce serait donc un engagement, parce que tu parles de cette langue que ces personnes ne connaissent pas. Et donc ça voudrait dire que t'écris dans une langue qui n'est pas la tienne, ou tu inventes une langue qui est la tienne, qui crée. Enfin, comment tu te situes par rapport à cette langue ?
Très bonne question. En fait, j'invente pas une langue. Je pense, je suis assez honte par rapport à ça, mais je reprends une langue que j'ai pris du temps à apprendre. Je sais pas si je fais du sens là, mais c'est du coup, je reprends en fait dans toutes les parties sur l'enfance, par exemple, celle qui part, je reprends tous les codes romanesques de on va mettre un personnage, on va peut-être parfois le victimiser, donc Nour qui est là, peut-être parfois le victimiser et peut-être en fait faire des boucles où elle va se répéter parce qu'il y a aussi ce truc d'enfance, mais c'est typiquement ce qu'on lit aussi dans les trucs de témoignage. Donc il y a eu tout ce travail sur la langue de voilà ce qu'on attend du roman.
Et puis après, regardez ce que j'en fais.
Voilà, donc c'est plutôt reprendre une langue, parce que je sais pas si, enfin, peut-être qu'à la fin de mon œuvre, quand on sera tous à la retraite, peut-être que là j'aurai peut-être une langue à développer, mais ça prend beaucoup de temps, quoi, et beaucoup de travail et beaucoup d'énergie. Mais donc reprendre la langue et en faire quelque chose. Et ce qui vient aussi gangréner les trucs de code romanesque, c'est du coup les autres parties. Celle qui part et celle qui fuit, avec cet élan poétique sur les piercings et le monde virtuel. Et aussi le monde queer, le milieu Gwyn aussi, qu'on peut voir vers la fin.
Mais qui est finalement très peu présent, enfin, ou en tout cas de façon beaucoup moins importante que ce que tu semblais vouloir faire à la base.
Oui, beaucoup moins importante de ce que je voulais faire à la base, parce que j'ai quand même... Je trouve qu'écrire, c'est aussi... il faut trouver un endroit où tu kiffes ça, quoi. Quand t'es en train d'écrire en tant qu'autoriste, que tu kiffes ce que t'es en train de faire. Et moi, j'ai kiffé reprendre tous les trucs de langue. Ou reprendre, par exemple, sur la partie où Nour arrive au lycée international d'Alger, elle parle de Zénaïde et elle dit « C'est ma première amie blanche ». Ce qui n'est pas le cas, il y avait Anna avant.
Enfin, mais dont elle reprend le pseudo.
Dont elle reprend, exactement. Et aussi, Anna, en dialecte algérien, ça veut dire je.
Okay.
Donc il y a aussi ces trucs de subtilité quand je vous dis j'écris pour et par qui, j'écris à la fois pour le regard blanc, mais aussi pour les personnes racisées qui vont avoir ces subtilités de langue là. Mais pour en venir sur le point, j'aime bien reprendre, dans pas mal de livres, on dit ouais, le docteur juif, mon ami chinois, enfin il y a des trucs comme ça, et du coup j'ai repris ça.
Mais en l'inversant, quoi.
Voilà. Ouais. Donc il y a ce truc de.
Le retournement.
Exactement, tu vois très bien le truc garant, c'est du coup ces trucs d'ambiguïté que j'adore. Enfin, en fait, finalement, je vous disais, mon projet c'était de base une lesbienne qui arrivait sur Paris, finalement ça s'est pas fait comme ça. Et c'est parce que j'ai aussi kiffé reprendre les codes romanesques, quoi. De ce genre.
Et tu parles d'abattre l'absence de représentation. Et du coup, est-ce que ça va dans ce sens-là ?
Bah, complètement, parce qu'il y a ce truc de. Maintenant, il y a quand même des personnes racisées qui accèdent à une sorte de visibilité, mais ça reste quelque chose de contrôlé. Et moi, j'aimerais bien une représentation plus plurielle. Moins binaire, ou alors tu sais, on va, enfin ça revient, ça rejoint ce qu'on dit sur ce qu'on disait sur tout le côté du sous-genre du témoignage. En fait, j'aimerais bien ne plus avoir t'es obligé de le faire pour rentrer, malheureusement c'est comme ça que le système marche, mais j'aimerais bien que la reconnaissance elle soit les représentations elles soient aussi sans avoir ça, tu vois, ou si on pouvait juste écrire de la poésie niche d'emblée, ce serait génial. Enfin, moi, c'est mon rêve, quoi. Et du coup, c'est ça. C'est pour ça que le truc de la langue, il est important. Donc, reprendre cette langue pour visibiliser, ça a été tout le travail que j'ai fait, parce que j'avais aussi envie d'atteindre des personnes qui sont, enfin, ce que je vous dis sur la blanchité, qui sont dans la blanchité tout en étant racisées, et aussi des personnes. Enfin, mon but, c'était pas de vous. Même si cette première page peut faire peur, dans le sens où...
Non, mais au contraire, je trouve que
c'est une invitation aussi, un peu. Ouais.
Bah ouais, peut-être que vous, c'est une invitation et peut-être que vous n'avez pas peur. Mais ouais, tout mon travail était de... Ouais, c'est important. Enfin, moi, dans ma chambre, quand j'étais ado, j'avais envie de lire des récits de lesbiennes algériennes, quoi. Enfin, quand j'étais à Alger. Dans ma chambre. Et donc, il y a ce truc d'abattre la reconnaissance, parce que c'est aussi un livre que j'ai écrit pour, en me disant, ouais, les adolescentes qui tomberont dessus, quoi. Enfin, il y a aussi tout ce truc un peu, je vous dis, j'ai kiffé être un peu reprendre les codes et un peu être sarcastique. Et je pense qu'on peut sentir dans la narratrice à des moments qu'elle est assez sarcastique. Mais il y a aussi ce truc de reconnaissance et de visibilité, parce qu'il y a ce sentiment de solitude très profond, dont tu as parlé d'ailleurs dans ton intro, que j'ai envie de briser. Et c'est avec la reconnaissance et la visibilité.
Ouais, et justement, cette année, il y a le prix Goincourt, qui, est donc, qui fait sa première édition, qui est le pendant lesbien du prix Goncourt, qui vise justement à visibiliser la littérature lesbienne. Et tu as été nommée, et Ouais, tu es nommée à ce prix. J'ai failli écrire une lauréate, mais on te le souhaite, mais voilà. Bravo, déjà, c'est trop bien. C'est une grosse sélection avec des gros noms quand même à côté. On pense à Wendy Delorme, Juliette Roir, par exemple. Comment tu te sens à propos de ça ?
Bah, quelle surprise de m'y retrouver. D'ailleurs, je suis si bien accompagnée, que ce soit Wendy Delorme, Gorge, Lumen, j'étais hyper contente de voir d'être si bien accompagnée, mais en même temps, je m'y attendais tellement pas, donc c'était vraiment une surprise, j'avais beaucoup d'émotions, quoi. En plus de, il y a ce truc, quand t'es Gwyn, t'es contente d'être dans un prix de Gwyn, quoi.
Merci. Alors, on va continuer à parler de ton livre dans un instant. On va d'abord faire une petite pause musicale, mais avant ça, on te propose de lire un court extrait de ton livre. Pour faire entendre ta langue.
Depuis que mon corps est devenu une fourmilière, mon esprit s'évade. Il s'enfuit entre deux rives opposées. Il a le cul entre deux chaises. J'ai 7 ans et mon cerveau est en ébullition. Pas un instant ne passe sans que mes pensées s'arrêtent. Il faut que j'arrive à répondre aux attentes de mes parents. Il faut que je taise en moi ce que je vis, ce que je ressens. Il ne faut pas faire de vagues. Il faut réussir à faire comme Fadi. Réussir à assimiler une seconde langue, c'est une chance. C'est ce que disent les adultes. Mieux vaut apprendre maintenant que plus tard. Quand je vais faire de la balançoire, j'imagine réussir à mettre assez de force dans mes jambes pour basculer en arrière, la tête la première, pour que ça s'arrête. Mais au dernier moment, je me rate. Je ne récolte que des bleus et des éraflures qui, quelques heures plus tard, forment des croûtes que je gratte le soir pour me rappeler cette tentative échouée.
Merci. Et tout de suite, on va écouter This Mess We're In de PJ Harvey et Tom York. Salut quoi sur Radio Campus Paris, et tout de suite c'est l'heure de la chronique de Margot qui nous parle de l'expérience de lecture du livre Stone Butch Blues de Leslie Feinberg. On écoute ça tout de suite.
I found out just within like the last 10 or 15 years that there's always been people like me. There's a reason why I didn't know all that stuff. It's not just that they didn't tell me, they didn't want me to know it, and I needed to know it, but I found it anyway.
Stone Butch Blues by Leslie Feinberg.
Stone Butch Blues de Leslie Feinberg.
Stone Butch Blues by Leslie Feinberg. Give him all your
love. Just one. Alors, moi je m'appelle Camille et je suis une femme queer qui a à la fois découvert son identité queer dans l'adolescence et en même temps qui est restée seule avec ça pendant plusieurs années avant de faire plein de rencontres. On est en septembre et je l'ai lu en août. Donc je pense que je l'ai fini il y a un tout petit peu plus d'un mois. Et du coup, Stone Butch Blues est un peu maintenant également dans cet ensemble de livres qui font partie des lectures les plus marquantes de ma vie. J'ai lu la deuxième moitié du livre en vacances sur une péniche avec ma belle famille. Et je me souviens d'être dans une toute petite chambre de cette péniche avec ma copine et vraiment de commencer à avoir des crises de larmes de... juste de devoir m'arrêter, de pas pouvoir continuer à lire juste parce que c'était enfin, ça me bouleversait trop.
Vraiment, j'ai commencé à pleurer à la page 20.
Absolutely crushing lows and you soaring cathartic highs.
I have never felt more feelings than I did while reading this book.
Just as I got my keys, Ruth opened the door. I'm sorry, I said. I'm not skulking, honestly. It's just been a long time since I smelled rhubarb cooking. It takes me back. When I was a kid, I used to eat it plain in a bowl with brown sugar. Ruth stirred the pot. I'm sure there's enough for that. She stopped puttering and buried her hands in the pockets of her old-fashioned floral apron. Ruth got up and spooned soft rhubarb into a dish, then crumbled brown sugar over it. I slipped a spoonful into my mouth and sighed. I had forgotten about taste. She frowned. What do you mean? Oh, I just eat because I'm hungry. Fast food, takeout, I don't really taste it. But this tastes so good, it makes me want to cry. Je sais pas pourquoi ce passage-là en particulier. Je pense que il m'a frappée par la simplicité de la phrase. En fait, ça marque ce que la pauvreté peut avoir sur le rapport à la vie, de la perte presque d'identité individuelle qui peut en découler, le fait d'oublier ce que c'était que le goût.
It takes so much courage to live our lives that sometimes just leaving our homes in the morning and facing the world as who we really are is in and of itself an act of resistance. But perhaps you didn't know that we have a history of fighting against such injustice.
I love Leslie, and I think you love Leslie also. And I think that foundation reason is that Leslie offers us hope and revolutionary optimism.
Ce livre, il fait vraiment des choses. Je suis quelqu'un d'assez peureux. J'ose pas toujours agir en accord avec mes idées. Et je pense que ce livre fait partie des limites des outils qui peuvent m'aider, même si c'est un peu le réduire que de dire ça. Genre, c'est un livre qui crée du mouvement. Que ce soit individuellement, émotionnellement ou politiquement. Ça m'a donné envie d'avoir plus de courage.
It is time for us to write as experts on our own histories. For too long, our light has been refracted through other people's prisms. I grew up thinking that the hatred I faced because of my gender expression was simply a byproduct of human nature, and that it must be my fault that I was a target for such outrage. I don't want any young person to ever believe that's true again.
Salut quoi? Salut quoi? On a dit salut quoi les filles? Sur Radio Campus Paris.
Margot pour cette belle chronique. Vous écoutez toujours Salut quoi et on reprend notre échange avec Nour Bekar à propos de son livre Corps étranger sous la peau.
Oui, donc ton livre est construit sous forme de fragments, des sortes d'instantanés narratifs et autofictionnels, donc qui alternent entre la France et l'Algérie de manière anarchique ou en tout cas non chronologique et entrecoupés de passages très poétiques, plus métaphoriques. Et donc, comment ça fonctionne en fait cette forme très fragmentaire où je dis pour les auditoristes, il y a toujours celle qui reste, celle qui part et celle qui fuit, avec cette importance des lieux, donc Paris et Alger, avec une sorte de kaléidoscope comme ça, des multiples vies de la narratrice à des âges et des lieux différents. Donc dans lequel le poids de la solitude et de l'exclusion persiste. Donc comment tu avais pensé ça, cette forme qui est très forte dans le livre?
Alors déjà, On revient sur le truc de la langue où moi je me suis rendu compte que quand t'es une personne racisée, donc il y a ce truc de témoignage et donc il faut passer par le roman et tu peux pas faire forcément de la poésie, alors que personnellement c'était... Enfin, peut-être que je mets même beaucoup de pression en tant que personne et du coup en tant qu'autrice aussi, mais je me suis dit ok, comment je peux faire pour être contente de ce que j'écris et prendre du plaisir à écrire, et du coup j'ai incorporé ces trois parties là, donc celle qui reste c'est tous les passages sur les piercings et après aussi sur la vie queer, et j'adore la poésie, j'aimerais tellement écrire de la poésie.
Mais t'en écris déjà.
Il y a de la poésie là-dedans.
Merci. Je veux dire, j'aimerais vraiment sortir un recueil de poésie que je travaille dessus, quoi. Mais je me suis dit, pour le premier, on va un peu corrompre la forme du roman et la rendre queer en mettant celle qui reste, qui sera des poèmes. Qui seront des poèmes un peu en vers libre, et après ça peut être aussi le... Enfin, tout dépend de... J'aime bien ce truc de liberté, je pense, en ayant grandi à un endroit où j'avais très peu de liberté, j'avais envie aussi que les lectrices se sentent libres de choisir la forme de mon livre, dans le sens où, quand tu vois ça, tu te dis, c'est présenté comme un roman, mais tu peux le lire comme... des passages de journal intime, des passages d'un recueil de poésie, ou alors tout ce truc un peu presque documentaire dans certains passages où je parle du monde virtuel et j'explique un peu tout ce que c'est. J'étais à roleplay. Donc la forme, elle m'est venue aussi avec la question de l'adresse. Avec toute la question de l'adresse, de comment je fais pour atteindre les gens et aussi prendre plaisir à écrire.
Ok, merci. Et tu parlais de GTA tout à l'heure, ça fait écho à un truc qu'on a remarqué dans ton livre, c'est la question du dédoublement. Il y a beaucoup de doubles, il y a le frère jumeau, il y a Alger et Paris, il y a la mère et la sœur, j'essaie de tous les trouver.
L'avatar
dans GTA, il y a ton double littéraire aussi. C'est un thème un peu qui se retrouve comme fil rouge un peu en creux dans le roman. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ça ? J'ai pas vraiment de questions, c'est plus...
Complètement, en fait, moi, la question du double, c'est aussi une question, en fait, qui est, pour moi, très, 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 très importante, parce que ça montre que t'es ancré dans le réel et que ton point de vue situé, c'est juste un point de vue, et que, en fait, il se passe 10 000 autres choses. Et quand tu le rattaches, en fait, dans la société occidentale, je trouve qu'il y a toujours ce truc d'opposition. Un et son opposé.
Très binaire.
Très, très, très binaire. Et donc, il y avait cette question de... là, je ne vais pas faire un et son opposé. Je vais faire un et un est égal 2, est égal 3, est égal 4, est égal la société. Donc, comment, en tant qu'individu, en fait, la société nous régit. Donc, j'ai incorporé les trucs de la mère, la tante pour la famille, le frère jumeau pour le genre, et... l'avatar virtuel pour parler aussi de la société dans la société, donc tous les réseaux sociaux, bon là je ne parle pas trop des réseaux sociaux, mais des jeux vidéo où en fait c'est aussi un espace social et on a tendance à l'oublier parce que...
Oui, où se rejouent les mêmes formes de violence aussi.
C'est ça, mais se rejouent les mêmes formes de violence et sont amplifiées. Et c'est ça qui est marrant, c'est qu'on a tendance à montrer les jeux vidéo comme quelque chose de violent et tout, mais moi je trouve ça juste drôle de voir que c'est juste un miroir de ce qui se passe dans le réel, alors que les gens veulent s'y évader, mais vont amplifier.
Comme un miroir grossissant.
Ouais, c'est ça, exactement. Et... ouais, la question du double, c'est quelque chose aussi que je lis au fait que tu dis, enfin, je veux dire, quand tu grandis dans un environnement comme l'endroit où Nour, dans le livre, a pu grandir, où j'ai vraiment amplifié plein de clichés, parce que, enfin, comme je l'ai dit dans la première page, j'adore jouer avec les clichés, jouer avec tout ça. Comment tu fais pour revenir à ton corps une fois que t'as dissocié? Donc la question du double, c'est ça aussi. Il y a aussi un double de dissociation.
Oui, c'est ce que j'y pensais, et notamment dans ce... On ne sait pas trop si... Parce que du coup, il y a vraiment la relation à Zénaïde et justement à ses scarifications. Il y a ce dédoublement-là aussi, dont elle préfère s'occuper de Zénaïde plutôt que d'elle-même, et ça lui permet de s'oublier elle. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Et en même temps, c'est du désir, donc il y a cette question d'identification. Est-ce que je veux être elle ou est-ce que je l'aime? Enfin, il y a...
Oui, exactement.
Qui est très présent dans le questionnement des débuts du... Enfin, sexualité lesbienne, enfin, il y a quelque chose de...
Oui, oui, je voulais parler, en fait, du fait que, en fait, quand on n'a pas de récit lesbien ou très peu, ben, dans ce cas-là, là, il y a l'entrée Violette Leduc à nouveau avec Thérèse et Isabelle. Il y a aussi la narrative qu'on est construit autour de récits très fusionnels, très charnels, et quand t'es enfant aussi, l'adolescence, ben, t'as envie d'être... prendre soin, enfin, en fait... Quand toi, tu grandis et t'as l'impression qu'une personne n'a pris soin de toi, ben, qu'est-ce que tu vas faire quand t'as pas forcément des années de thérapie derrière? Tu vas essayer de prendre soin des autres en ayant une figure de sauveur. Et avec le personnage de Zénaïde, il y avait aussi, enfin, je pense que Nour aussi a ce truc dans le livre d'être hyper empathique et hyper sensible aux autres, étant une enfant hyper sensible, mais très dans sa tête. Et Zénaïde était en fait son échappatoire il y a d'autres personnes que les personnages fiction que t'as dans ta tête. Et donc il y a ce transfert de double, mais aussi j'avais envie d'écrire sur le désir adolescent lesbien et tout ce que toute la problématique des amours, amitiés un peu toxiques, où tu te rends pas compte que c'était toxique jusqu'à que la personne disparaisse, mais que tu vis entièrement. Enfin, je veux dire, on a à peu près, enfin, je pense une lesbienne sur deux a vécu ça, quoi, au collège. Et je pense que c'était quelque chose que je voulais inclure, alors que personnellement, moi-même, je l'ai pas forcément vécu. Mais j'ai été là, on m'a dit, l'homo-érotique friendship, là, il faut la mettre. Il faut la mettre parce qu'on l'a vécu tous.
Et en même temps, là, c'est très beau parce que tu réinjectes aussi l'importance de la littérature. Avec Thérèse et Isabelle, et justement là il y a encore cette question du double où elle se sent vue, reconnue, ou pour la première fois elle s'identifie à une histoire d'amour en lisant Thérèse et Isabelle, et en fait à ce moment là elle va se mettre en couple
ouais, avec Jean.
et alors que c'est sur le point, enfin il y a un truc qui va se concrétiser et en fait non.
Oui, mais aussi, enfin, ça c'est aussi un truc en tant qu'autrice, et du coup, j'avais envie de ramener cet espace de frustration du lecteur, quoi. Enfin, en fait, vous n'allez pas avoir tout de suite ce que vous voulez parce que ce serait trop simple. Ça en dit long sur la personne que je suis. Mais
ça
aussi,
marche bien.
Ouais, mais ouais, aussi, je voulais aussi parler de, enfin, je veux dire, dans les années 2010, même si on avait tous accès à Internet, enfin, il y a aussi, enfin, je voulais aussi parler de, en Algérie, bah, le patriarcat, c'est pas le même qu'ici. Et même si on a des espaces bah, hyper privilégiés, comme le lycée international, ou alors nous ressemblons avec Jean qui est français et tout ça, il y a quand même le regard des mecs, le regard que, en fait, quand t'es ado, t'as pas conscience de tout ça, parce qu'on ne fait pas lire de la littérature féministe, on ne fait pas lire des trucs queer, et il y a très peu de vulgarisation, même si... Internet existait, quoi. Enfin, voilà.
Et justement, par rapport à ce personnage de la tante, donc qui peut être considéré comme un double de la mère de Nour, donc elle est biologiste, elle lit Pasolini, elle a encouragé sa mère à faire une GPA, et donc il y a un lien qui semble fort à cette tante, mais avec qui finalement la discussion est presque impossible. Et donc là, c'est lié quand même à cette question des piercings qui revient de façon très importante dans le livre. Et peut-être qu'on pourrait en lire un extrait.
Oui, pour contexte, parce que dans le livre, c'est précisé que la Nour parle de ses piercings comme aussi un moyen de parler à sa tante. Enfin, c'est un peu une sorte de jeu entre elles, de je me perce, je te le montre. Et ouais, c'est un peu leur forme de conversation, j'ai l'impression.
Ouais, ouais, c'est un peu la fin de son pseudo-poème où, en gros, en fait, Nour montre ses piercings. En fait, il n'y a rien de mieux que l'apport visuel quand tu parles à quelqu'un. Enfin, en fait, il faut lui montrer. Quand une personne. En fait, on parle aussi d'une personne qui est. Une personne en situation d'handicap qui a perdu qui a perdu l'oralité, donc on retourne sur ce truc de silence infligé, que ça soit le silence dans une société patriarcale ou que ça soit le silence qu'on s'inflige à soi-même ou le silence que certaines maladies peuvent infliger. Et donc ouais, c'est un peu la chute où je parle de ça. Et
Nous on propose de lire pas cette chute, mais un autre extrait sur ces extraits, ce passage un peu plus poétique.
J'ai 19 piercings. Je me perce la langue pour avoir une chance de mourir étouffée la nuit. Ma langue est percée pour faire de meilleurs cunis. Ce n'est pas moi qui le dis, mais elle, celle qui vole ma bave la nuit. Je me perce la langue pour empêcher de rouler les airs. Je me perce la langue pour me taire. J'ai 17 piercings. Au bout de combien de blessures infligées, j'arrêterai de saigner. Je me perce le rook pour faire oublier ma carnation avec de la différence. J'ai 15 piercings. La lymphe pullule dans mon nombril. L'essuie-tement se mélange à l'acier inoxydable. Il donne du reflet. Je décide de percer mon nombril pour bloquer son entrée. Mon cordon ombilical a été arraché en profondeur, pas coupé. Mon nombril a besoin d'être fermé.
Et moi, je voulais te demander par rapport à l'utilisation de justement cette image des piercings. C'est très poétique quand tu parles des piercings et juste le lien corps et que genre ça dissout un peu le côté narratif et ça, oui, ça reste très fragmentaire et très similaire à la poésie. Pourquoi ce lien entre le corps, le piercing, la poésie?
Parce que pour moi, la poésie, c'est d'abord l'émotion avant d'être quelque chose où tu penses quand tu la lis. Donc j'avais vraiment envie de me toucher avec cette émotion-là. Et d'ailleurs, le jeu est travaillé. Puis ce truc de répétition qui va crescendo, j'ai 19 piercings, enfin, jusque la fin. J'avais envie que quelqu'un qui... C'était tout le travail d'ailleurs de ces parties, où quelqu'un qui n'a pas forcément grandi en Algérie, qui n'a pas forcément immigré dans le sens inverse, va se reconnaître. Et l'altérité, les piercings, c'est quelque chose qui ont été vachement plus... maintenant, tu vois, tout le monde a envie de personnaliser un peu son chara-design de la vraie vie. Enfin, c'est un peu ce qui se passe. Et je me suis dit, ok, tu tombes sur un bon truc. Sachant que avant c'était plutôt dans les milieux alt, alors que maintenant, tout le monde a des piercings, en fait. Même leur petit lobe d'oreille, c'est un piercing. Et c'était une manière pour moi d'ouvrir la porte d'entrée aux gens qui... prendrait ce livre et se dirait, ok, en fait, je peux pas me reconnaître. Alors que si tu ouvres une page au hasard, hop, il y a ce truc de piercing, il y a ce truc aussi un peu sur la naissance et qu'est-ce que ça fait d'être dans ce corps-là. Et parce qu'on a tous un corps et on a tendance à l'oublier. Je sais pas si je réponds bien à ta question.
Et justement, le corps, il est très souvent lié. Donc là, c'est toute une espèce de sculpter son apparence, une question de s'opposer, à la fois de ressembler. Et donc exister tout en continuant aussi à se faire mal. Enfin, il y a quelque chose comme ça du corps lié à la souffrance et en même temps au désir lesbien et à son refoulement. Et donc on arrive à la question du regard omniprésent.
Ouais, on en parlait tout à l'heure de gens qui arrivent dans le livre au moment où, avec Zénaïde, il y a... On sent la tension qui monte, quoi. Et en fait, dans toutes les histoires de livres, à chaque fois qu'elle a une histoire avec une fille, il y a toujours un regard masculin quelque part, toujours une ombre qui plane comme ça. Et bah, carrément, la première fois qu'elle embrasse une fille, c'est à travers la caméra d'un homme. Ouais, on se demandait pourquoi c'était important pour toi de mettre en scène cette omniprésence des hommes. Même au moment où elle prend conscience et elle incarne un peu son désir, quoi.
Très bonne question. Bah, en fait, ça reprend tout ce truc, ce que je disais sur l'Algérie et de travailler sur le cliché. En fait, quand on grandit en France, on n'a pas forcément conscience de ça, mais en fait, c'est comme ce que je disais tantôt, le patriarcat, c'est pas le même, et même dans la loi, en fait, on est, en tant que femme, on est assez relégué aux hommes, enfin, en étant en Algérie. Et moi, j'ai vraiment grandi avec ce truc de, malheureusement, le regard masculin, il était là. Il était présent, tu le sens dans la rue, tu le sens partout, et c'était pas quelque chose de mal. Enfin, moi, je m'étais habituée à ça, c'était pas quelque chose que j'ai envie de porter comme quelque chose de péjoratif, mais qu'il faut rappeler que ces réalités-là existent, et que faire communauté, on peut le faire que dans des endroits en Occident ou en France, quoi. Si tu veux faire communauté, c'est un privilège aussi. Et tu peux un peu essayer de dévier du regard masculin quand on a conscience. En France, en Algérie, c'est constant et c'est ok. Donc je me suis dit, enfin c'est ok, on s'entend. Je me suis dit comment je l'incorpore pour faire comprendre que ce sera une bataille tout du long du personnage de Nour qui essaye de se détacher de ce regard, sachant que la première chose qui l'a frappé dans son enfance, ben, c'est ce regard. Et d'ailleurs, on a ce travail de regard avec la couve de Selem qui est là, c'est que comment on change son regard, que ça soit le regard masculin ou le regard de notre regard de lectrice ou notre regard de vécu. Et donc pour moi c'était aussi important parce que je suis rentrée dans la littérature queer en lisant La contrainte à l'hétérosexualité de Adrienne Reich. Je devais avoir 17 ans ou un truc comme ça, et je lisais ça et je me suis dit ok, en fait ça fait sens à plein d'endroits. Pour ma part c'était pas le cas, mais ça faisait sens à plein d'endroits, où quand moi je rencontrais des lesbiennes quand j'étais adolescente en Algérie, elles me parlaient de ça, de la contrainte à l'hétérosexualité. Et du coup je me suis dit ok, il faut que j'écrive ce bouquin en mettant en scène une adolescente qui va sentir ce truc de regard social au travers de la famille, au travers de la société, parce qu'en fait c'est comme ça que ça a été vécu pour plein de personnes en Algérie. Et si je mets un point de vue trop occidental, même si ça va déléguer certains clichés, et franchement j'en avais rien à faire, même si ça va déléguer certains clichés, je me suis dit, il faut quand même que je le mette pour archiver ça. Ouais. Donc on revient sur la question de visibiliser. Parce que même si les gens... Enfin, maintenant, je sais que tu vois, dans la littérature queer, on est là en mode, on n'en peut plus des regards de mecs, on n'en peut plus... Quand t'as un corps qui grandit en Algérie et t'as un adolescent queer qui grandit en Algérie, tu peux pas encore te détacher du regard de mec. Voilà, j'ai fait tout ce travail d'ailleurs parfois qui était assez compliqué parce que ça fait 8 ans que j'y suis plus. Enfin, du coup, c'était me remettre dans ça. Et j'étais en mode, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais déléguer comme idée? Mais c'est important quand même, parce que, hop, on revient à ce truc de l'une adolescente ou un adolescent qui grandit et qui dit ça, il va s'y reconnaître parce que le regard masculin là-bas, voilà.
Merci beaucoup. On va s'arrêter là-dessus. Malheureusement, on avait plein d'autres questions. Ce sera pour après l'émission. mais voilà, c'est la fin de cette interview. Merci aussi pour ton texte très lumineux. Et qu'on a beaucoup aimé, je pense que ça s'est aussi ressenti. Et restez avec nous, car ce n'est pas encore la fin de Saliqua. On approche de la fin, mais pour l'instant, c'est l'heure d'inaugurer le Book Club, un moment sans script et sans filet où on va discuter d'un livre de notre choix. Et pour ça, on accueille en studio Valentine.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous pour cette première.
Merci de m'avoir invitée.
Avec plaisir. On a choisi aujourd'hui de discuter du livre « Ça raconte Sarah », un roman de Pauline Delabroix-Allard, paru en 2018 aux éditions de Minuit. C'est un livre qui raconte une passion entre deux femmes, vraiment une passion au sens propre, qui fait le portrait d'une relation mouvementée. C'est un livre dont l'écriture est très poétique et qui nous a toutes marquées. Et on va en parler, mais avant, on va écouter un passage que Garance va nous lire.
Elle est surprise de l'obsession que je nourris immédiatement pour cet octuor, de mon désir de l'écouter toujours, en boucle s'il le faut, d'en écouter tous les enregistrements existants. Elle ne sait pas que l'avoir joué le quatrième mouvement a été une des plus belles choses de ma vie. Elle ignore tout de mes pommes fiévreuses, de mon pouls qui palpite, des voix cotonneuses. Et d'un coup le silence, la lumière vive sur scène, la lumière crue, cruelle. Le moment suspendu dans le noir d'un coup, dans le silence d'un coup, et rien. Pendant quelques instants, rien. Sauf mon pouls qui palpite. Et puis elle rentre, sur scène. Tout autour de moi, tous, ils applaudissent. Je n'entends rien, je la regarde, sa robe longue, l'éclat de ses boucles d'oreilles, la lueur de ses incisives, mon vampire, son violon, son chignon, son air lointain, mon souffle destitué.
Merci, Carence. Alors, comme je l'ai dit, c'est un moment sans script. Donc, on a préparé un peu des petites choses, mais peut-être qu'on peut commencer en parlant de notre expérience de lecture et de ce que ça nous a fait un peu de lire ou de relire ce livre, parce que je crois qu'avec Garance, on a un peu partagé un contraste entre la lecture et la relecture. Je sais pas qui veut se lancer.
Moi je peux me lancer. Oui, c'est vrai que j'avais été vraiment éblouie par ce texte. Je l'avais lu, je pense, il y a 3 ans, parce qu'il est sorti en 2018.
Oui, il date.
Mais je l'avais pas lu. Enfin, ça sortit quand même, mais bon, c'était un moment. Et là, j'ai relu quelques passages. En fait, j'étais très énervée par ce texte. Parce qu'il y avait quelque chose de... Enfin, il y a toujours cette très belle langue, mais j'arrivais plus à la voir, en fait. Et je crois que ouais, c'est le charme de la découverte. Et, de... et puis, je pense que c'était aussi un autre moment de ma vie. C'est ça aussi, c'est très... une lecture est très liée à ce, que... ce qu'on vit à un moment T. Et donc bah là, je voyais juste deux bourgeoises qui prennent le train tout le temps pour se rejoindre. Ouais,
qui jouent des quatuors.
Qui écoutent Mendelssohn. Et du coup, bah, c'est vrai qu'il y avait, ouais, il y avait quelque chose de... J'y arrivais plus.
Ouais, moi, c'est absolument pareil. En fait, je l'ai lu il y a 5 ans, je pense. Et je pense que ça a été une des premières autofictions lesbiennes que j'ai lues. Et pareil que toi, ça m'a frappée. Je me souviens d'avoir été prise d'une tristesse immense, en fait. Parce que le livre est en fait très triste. Et donc là, je l'ai relu avec du coup un œil plus vieux de 5 ans, en ayant lu plein d'autres autofictions, parce que bon, c'est très présent dans le champ littéraire actuel, plein d'autres livres lesbiens, et c'est vrai que j'ai été aussi extrêmement déçue. Et cette langue, moi, qui m'avait vraiment emportée et même fascinée à la première lecture, elle m'a paru presque banale, en fait, maintenant.
Ouais. Et donc, presque déjà daté, c'est fou quand même.
Absolument, absolument. Ouais, ouais, ouais. Et la vision, mais comme tu le dis, très blanc, très. On a assez d'argent pour aller. Enfin, j'ai assez d'argent pour aller m'exiler à Trieste. Alors ça.
Mais elle y croit quand même. Donc,
on pourra en parler en de la fin du livre et de nos interprétations.
Oui, parce qu'il y a ça aussi.
Il y a quand même eu un gros débat.
Ah, ouais, c'est un très gros débat, ouais.
Mais oui, ouais, je suis d'accord, moi aussi. Enfin, alors moi, je l'ai lu il y a moins longtemps, je l'ai lu il y a 6 mois. Et pareil, je l'ai beaucoup aimé. Je pense que aussi, je sais pas, ça faisait écho peut-être à une actualité un peu. Enfin, je sais pas. Genre... En tout cas, ça m'a... j'ai bien aimé lire cette passion aussi lesbienne. Je pense que ça m'a beaucoup touchée. Mais, mais ouais, cette poésie un peu qu'on retrouve et qu'en vrai, il y a 6 mois, je trouvais déjà un peu marquée. Enfin. Un peu daté déjà.
Superficiel.
Non, peut-être pas superficiel. En vrai, je trouve toujours que sa langue, que c'est super beau ce qu'elle écrit. Mais c'est vrai que là, en le relisant récemment, je me suis dit, ah ouais, quand même.
Mais c'était intéressant ce que tu disais en off, Nour, justement, qu'il y a certains livres qu'il ne faut pas relire. Et ce truc entre le contexte social et est-ce qu'on se laisse emporter par une langue. Et en fait, si on commence à avoir une vision un peu sociologique de la littérature, ça empêche plein d'émotions, en fait.
Ouais, complètement. Mais en fait, c'est pour ça que moi j'aime bien, enfin, dire qu'il y a des livres qu'on lit qu'une fois, alors qu'il y a quand même un plaisir aussi à la relecture. Mais avec Sarah Conte Sarah, moi je l'ai lu en 2018 quand il est sorti, parce que j'ai une très bonne amie qui s'appelle Pauline qui me l'avait offert. Je suis en mode, ok, je sais pas ce que tu m'envoies un message subliminal. Mais il y a ce truc en fait de. Bah en fait on peut aussi ouvrir à Violette Le Duc et tous les trucs, tu vois, c'est ces lectures queer Gwyn là qu'il faut qu'on ait, parce que c'est ces trucs de représentation, et puis après il faut pas les relire, il faut les mettre sur le côté et avancer, parce que c'est des choses qui ont été écrites dans un point de vue situé. Ouais. Et ils cherchent pas à le dépasser, alors que nous, comme on est des personnes qui vont réfléchir sur ce qu'on vient de lire,
oui, on
cherche
à
dépasser. Là, c'est vrai, on arrive après, mais on veut toujours dépasser aussi ce qu'on vient de lire, en mode, mais qu'est-ce qu'elle voulait nous donner, la personne qui l'a écrit. Ouais. Donc, ouais, il faut pas, faut pas relire.
Oui, du coup, c'est un jalon aussi, peut-être, dans nous, nos propres expériences de lectrice, et dans la littérature lesbienne en général, et que bah, c'est aussi trop cool de voir qu'en 5 ans, ça a beaucoup changé, et que.
Ouais,
et que comme bah, ce que tu participes à faire, enfin cette multiplication aussi de bah, justement des points de vue situés et de ouais c'est cool.
Anna, je sais pas si tu veux nous parler toi de ton expérience.
Et moi je l'ai lu aussi il y a 6 mois ou quelque chose comme ça, et je l'ai trouvé très inaccessible. Parce que le français n'est pas ma langue française. Et du coup, oui, il y avait certains mots que j'avais pas, que je comprenais pas le contexte où je devais chercher. Du coup, je trouve ça quand même un peu dommage et très blanc et très bourgeois d'utiliser ce langage, même si ça reste très beau. Mais du coup, ça rend un peu l'expérience lesbienne inaccessible, ce qu'il ne faut pas faire.
Non, et moi, je suis complètement d'accord avec ces mots compliqués. J'ai l'impression qu'elle les insère de manière mais presque obligatoire dans le texte pour se justifier d'être, je ne sais pas moi, édité chez Minuit, qui est une maison d'édition extrêmement bourgeoise. Et je les trouve hors propos et hors contexte.
Alors, pédant, du coup.
Et moi, c'est un truc que pédant, j'ai adoré. Je sais pas, je trouve que... En fait, je trouve qu'il y a des mots qui disent très précisément ce qu'ils veulent dire et que j'ai trouvé ça hyper agréable de lire quand elle dit genre à toute berzingue, courir comme une dératée. Ou je trouvais que c'était exactement ce qu'il fallait dire pour qu'on comprenne son sentiment. Bon, peut-être que du coup, c'est aussi. Il y a.
Ouais, peut-être que c'est moins inactivité.
Oui, peut-être que c'est moins inaccessible effectivement pour les personnes dont le français n'est pas la langue maternelle. Et puis c'est un langage effectivement très très soutenu. Et je pense que c'est aussi peut-être très bourgeois de ma part de dire ça. Mais moi j'ai bien aimé cette précision, un peu genre chirurgicale des fois sur son emploi des mots. Ouais, voilà. Enfin, je sais que j'ai souligné plein de mots, limite que j'avais oublié, mais du coup que ça m'a rappelé de. Enfin, je sais pas, jusqu'on avait parlé du mot valdingué. J'avais complètement oublié ce mot et je l'ai lu dans Ça raconte ça. J'étais en mode, ah ouais, c'est un super mot. Mais ouais.
Mais en fait, je suis d'accord. Moi, je pense que, j'aime, dans tout ce que je lis, genre avoir ce truc. Enfin, je pense que la précision des mots et d'aller chercher quelque chose. Mais il y a différentes manières de le faire. Et je pense que c'est toujours la question de. Mais pareil, ça, c'est une question de. En tant qu'aussi que lectoriste, où est-ce qu'on se situe? Et est-ce que du coup on peut se permettre d'avoir un regard critique sur une maison, enfin un livre qui est publié dans une maison d'édition qui serait considéré comme le Graal? Et je trouve que c'est tout ce déplacement là où j'ai l'impression que moi ça dit plus presque de moi aussi et de là où je me situe même politiquement, et qu'en fait on peut jamais réussir à dissocier les deux, quoi.
Je sais pas si on peut ne pas réussir à dissocier les deux, ou c'est juste que maintenant on pousse les gens à se questionner sur ça. Alors que je pense qu'avant, quand tu recevais des textes ou que tu lisais des textes, tu étais vraiment porté par l'histoire et tu t'arrêtais à voilà ce que l'histoire me porte, et tu pensais même pas au choix de mots que l'autoriste allait employer, à part si t'étais critique littéraire, quoi.
C'est vrai.
Donc c'est aussi s'ancrer dans comment la société nous pousse en tant que lectrice à voir les choses. Enfin, il faut vraiment penser que tout ce qui se passe autour
et
de nous.
Et encore qu'on fait partie, je pense, aussi d'une bulle. Enfin, qui a...
Absolument. Complètement.
Oui.
D'une bulle qui sait lire de quelle maison d'édition.
Oui, exactement, c'est ça. Donc, et là, c'est nous-mêmes qui reproduisons.
Et justement, on va devoir s'arrêter là-dessus, malheureusement. C'était finalement assez bien, je trouve, comme premier book club.
Bah ouais.
On n'a pas du tout parlé du livre. Non, finalement, on n'a pas parlé du livre. Mais peut-être que vous pouvez nous dire. Suivez-nous sur Instagram et dites-nous si, selon vous, Sarah est morte ou non, car c'est le débat qu'on n'a pas eu le temps d'avoir, mais qui nous a occupés en rédaction. Peut-être pour une prochaine fois. En tout cas, merci d'avoir écouté Sally Kwa. Merci à Nour d'avoir été avec nous. Pour rappel,
merci beaucoup.
Livre Corps étranger sous la peau, qui a été publié aux éditions Blast, est disponible en librairie. Donc foncez l'acheter, foncez le lire. Merci à Garance et Anna pour la préparation, la réalisation et la participation à cette émission. Merci à Margot pour la chronique et pour l'habillage et les graphismes de Sally Kwa. Merci à Valentine, notre invitée du jour, pour le book club. Sally Kwa, c'est une émission à retrouver un lundi par mois sur le 93.9 FM, sur le DAB+, Canal Campus en Ile-de-France, sur le site internet de Radio Campus Paris et sur toutes les plateformes de podcast. Donc foncez-nous, nous écouter ou nous réécouter, et à la prochaine.